franceinter.fr.
Le journal, Alain Passerelle. Alain, bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, Donald Trump, qui est arrivé en Israël, l'imprévisible président américain, a décidé d'être aimable en évoquant déjà les liens indestructibles entre les deux pays. Il parle aussi d'une rare opportunité pour la paix. Tiens, revoilà la Grèce, c'est toujours son énorme dette. Une réunion Eurogroupe FMI aujourd'hui à Bruxelles pour décider probablement d'un allègement. Berlin et Paris semblent d'accord. Avec nous en studio, un spécialiste de géopolitique, spécialiste de la Grèce, Georges Prévelakis. Autre réunion ce matin à Berlin, celle qui a réuni Bruno Le Maire et Wolfgang Schäuble. Un groupe de travail va être créé pour aller plus vite et plus loin dans l'intégration de la zone euro. La campagne des législatives, c'est parti pour 20 jours. Nous verrons quels sont les points chauds. Au PS, comme chez les Républicains, on attend le 18 juin, le deuxième tour, pour refonder. Les dossiers sociaux vont s'inviter dans cette campagne. Des employés de Tati ont rencontré ce matin la nouvelle ministre du Travail. Dans cette édition également, la démission très probablement acceptée de Michel Field, le directeur de la rédaction de France 2. Zinedine Zidane, pour qui tout réussit à la tête du Real. Et puis le point quotidien au Festival de Cannes. Tiens, un film grec, La mise à mort du cerf sacré. Le temps, bonjour Elodie Kadak.
Bonjour à tous.
Eh bien, il fait beau et ça va durer.
Et oui, pour toute la semaine d'ailleurs, un temps estival. Cet après-midi, on profite du soleil partout, un peu voilé de temps en temps, mais rien de bien méchant. Ça devient quand même plus chaotique entre les Pyrénées, le Limousin, le Massif central. Une ondée n'est pas exclue. Des orages sont attendus d'abord sur le relief des Pyrénées et puis en fin de journée, ils déborderont vers la région Midi-Pyrénées. Notez aussi que le vent s'oriente à l'ouest sur la façade atlantique. Il va apporter des nuages sur la pointe bretonne et le Pays basque.
Et côté température, ça monte.
Oui, on dépasse les 20 degrés partout cet après-midi. 20 à Brest, 24 à Cherbourg, à Nîmes, 26 degrés à Lille, au Mans, à Strasbourg. On attend 27 degrés à Paris, à Lyon ou à Toulouse. Demain encore de la chaleur, du soleil pour tout le monde. Beaucoup de nuages tout de même sur une moitié ouest pour commencer la journée, mais ça ne durera pas.
France Inter.
Israël est un pays qui n'aime guère l'imprévisibilité. C'est dire si on est sur ses gardes depuis l'arrivée du président américain ce matin, justement réputé pour ses actes ou déclarations inattendues, voire baroques. Donald Trump est donc arrivé vers 11h30 hors de Paris à l'aéroport de Tel Aviv. Il a depuis gagné Jérusalem. Il sera cet après-midi le premier président américain en exercice à se rendre au mur des Lamentations, site de prière le plus sacré pour les Juifs, surplombé lui-même par le troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées, le tout après avoir visité le Saint-Sépulcre, lieu le plus saint du christianisme. Une façon de toucher de près les complexités israélo-palestiniennes. Lui qui pense que la paix est possible, il l'a dit. Lui qui estime envisageable de mettre fin à l'un des plus vieux conflits du monde. Il l'a dit d'ailleurs dès son arrivée. Écoutez.
Pour mon premier voyage à l'étranger en tant que président, a-t-il dit, je suis venu en Terre Sainte pour réaffirmer les liens indéfectibles entre les États-Unis et Israël. Nous avons devant nous une rare occasion d'apporter la sécurité, la stabilité et la paix à cette région, mais nous n'y arriverons qu'en travaillant ensemble.
Propos recueillis et traduits par Franck Madvon. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Alain.
Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, vous êtes à Jérusalem. On est habitué à recevoir des présidents américains en Israël, mais celui-ci n'est pas tout à fait comme les autres.
Oui, sur le plan logistique et sécuritaire, on est dans le domaine du monumental pour un président qui arrive à l'instant auprès de la résidence du président israélien. On parle de 10 000 personnels de sécurité. On voit des policiers tous les 30 mètres dans le périmètre du cortège à Jérusalem. Un hôtel entier a été réservé et équipé pour le président et ses collaborateurs. Jérusalem vit à l'heure Trump avec ses axes coupés, sa vieille ville sécurisée. Une organisation qui s'est faite à vue avec un changement de programme assez régulier ces derniers jours, et vous le disiez, donc il y a les visites de lieux saints, en tout cas le Saint-Sépulcre et le mur des Lamentations cet après-midi, et en fin d'après-midi, une rencontre et un entretien avec le Premier ministre israélien.
Alors qu'apporte-t-il dans ses bagages ce président, Étienne ?
Bien là, pour l'instant, on a la musique, c'est vrai, hein, mais on ne sait pas encore quelles sont les paroles et ce qu'il y a autour de cette volonté donc d'ouvrir les discussions de paix, de créer les conditions qui permettraient de reprendre le dialogue. D'abord, quel est le cadre ? Est-ce que c'est la solution à deux États ? Donald Trump, il y a deux mois et demi, a semblé s'en détacher. Ensuite, quels sont les gestes de confiance que le président américain semble vouloir obtenir des deux dirigeants ? Est-ce qu'il y a des concessions douloureuses, voire intenables ? On parle donc de quelque chose de fort sur la colonisation côté israélien. Et puis, d'une évolution sur le soutien aux prisonniers apporté par l'autorité palestinienne. Voilà, cette visite crée un climat de tension politique en Israël. C'est un élément nouveau et assez sérieux dans une politique du statu quo que Barack Obama n'avait pas réussi à bousculer. Les derniers pour parler, c'est 2014 et la dernière rencontre Netanyahou-Abbas, c'était en 2010.
Étienne Monin en direct de Jérusalem. Des Israéliens donc qui attendent d'être rassurés et des Grecs qui attendent, eux, de connaître leur avenir à Bruxelles. Les créanciers d'Athènes sont réunis aujourd'hui autour de la table, entre autres les 19 ministres des Finances de la zone euro et le Fonds monétaire international, le FMI, tous impliqués dans le troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros accordé à Athènes en juillet 2015. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous êtes à Bruxelles. Quel est l'enjeu de cette réunion ? Que va-t-on décider en fait ?
Et vous savez, depuis le lancement, il y a 9 ans déjà, des opérations internationales de sauvetage des finances publiques de la Grèce, l'accent avait été mis quasi exclusivement sur la réduction du déficit annuel courant. Ceci comporte à la fois le rabotage des dépenses de l'État grec et la refonte partielle des structures de celui-ci, de façon à assurer la rentrée régulière et prévisible des recettes fiscales et parafiscales dues. Dit comme cela, eh bien cela paraît simple. Mais dans les faits, l'ampleur de la crise accumulée depuis des décennies, véritable feu couvant sous les cendre de l'incurie générale, a inévitablement contraint à édicter des mesures significatives et d'application immédiate, donc mal comprises et profondément impopulaires. Aujourd'hui, toutefois, l'on commence à mesurer les premiers effets positifs de cette médecine de choc, ce qui arrive au même moment qu'un début de redémarrage de la croissance internationale. Alors, les créanciers de la Grèce se montrent désormais plus amènes, s'agissant d'abord du prolongement de la durée de remboursement des emprunts, et surtout d'un allègement de la colossale dette publique cumulée, impossible à rembourser en l'état. Naguère jugée inorthodoxe par l'Allemagne, par les Pays-Bas et par la Suède notamment, la perspective de cet allègement devrait maintenant s'imposer, en particulier à l'initiative de la France.
Merci Quentin Dickinson à Bruxelles. Bonjour Georges Prevelakis.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne, professeur de géopolitique et spécialiste de la Grèce. Cette réunion est cruciale aujourd'hui pour la Grèce ?
C'est encore une réunion, on a pris l'habitude maintenant.
Dernière chance, etc.
Oui. Oui, c'est toujours la même chose, c'est toujours, je dirais, si vous voulez, la cacophonie, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans cette tragédie, chacun avec son propre agenda. Ils sont en train, alors il y a bien sûr le gouvernement grec, mais il y a aussi les FMI. Ensuite, il y a l'Europe, mais est-ce que c'est l'Europe ou est-ce que c'est l'Allemagne, la France? Bon, donc vous avez plusieurs acteurs, chacun avec son propre agenda qui n'est pas lié obligatoirement à la question grecque, c'est-à-dire il y a les
agenda
élections,
politique,
bien sûr,
de
les élections allemandes, les élections françaises. Évidemment, le gouvernement grec envisage les prochaines élections et sa propre stratégie pour essayer d'une certaine manière de ne pas disparaître du champ politique. Alors donc, ces échéances, ces négociations sont provoquées par l'imminence d'un risque, c'est-à-dire là, en juillet, la Grèce doit rembourser 7 milliards à peu près. Donc, il faut trouver cet argent sous des conditions qui ne vont pas provoquer de problèmes ni en Allemagne, ni au FMI, etc. Je pense que, je ne sais pas si ça va être résolu aujourd'hui, s'ils vont prendre une décision. En général, on arrive à un compromis quelques minutes presque avant le délai, tout simplement parce que c'est la cacophonie qui doit converger à une solution.
Et puis quelque part, on doit trouver cette solution. C'est pas possible autrement. On parle de... Effectivement, il y a un rapport de force extrême avant, pour des raisons politiques, vous le disiez, mais de toute façon, une solution doit être trouvée.
Mais ça dépend ce qu'on veut dire, une solution. La solution, c'est toujours la solution à court terme. C'est-à-dire, il faut trouver les moyens pour éviter la faillite de la Grèce si la Grèce n'a pas les 7 milliards. Mais encore une fois, quand on dit solution, c'est aussi la solution pour chacun des acteurs. Il ne faut pas que ça provoque des problèmes au gouvernement, aux Allemands en vue des élections. Il ne faut pas que ça provoque...
Alors en France, c'est fait, hein, ou pratiquement. comment vous voyez la position d'Emmanuel Macron par rapport à la Grèce? Plutôt bienveillante, on peut dire ça?
Ce n'est pas une question de bienveillance. Encore une fois, je pense que ça dépend de l'agenda de chacun. Je pense que François Hollande était bienveillant, pour ses propres raisons électorales internes. Donc c'est la politique interne. Vous voyez, nous avons un paysage qui est d'une extrême complexité. Il faut se rendre compte que la Grèce, pour plusieurs raisons, se trouve au carrefour de toute une série d'enjeux qui ne sont pas liés à la situation grecque. Et malheureusement, c'est la population grecque qui doit payer les frais pour ça.
Alors, à propos de population grecque, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé autant de la Grèce. On a envie de savoir un petit peu comment ça se passe dans ce pays. Est-ce qu'on a accepté l'austérité cette fois-ci?
Est-ce qu'on pense que
c'est la solution?
Est désespérée. Maintenant, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup d'espoir à l'avenir. Chacun essaye de survivre comme il peut, sous des conditions de récession, aussi d'une imposition qui ne fait que s'aggraver. Derrière la surface, les économistes, les technocrates, les responsables, évidemment, ils présentent une sorte de façade. Mais derrière, on voit bien que les choses sont très différentes.
C'est
difficile et tout ce qu'on présente, c'est-à-dire la meilleure illustration. Il y a deux illustrations. La première question, c'est la question de la dette. Donc, on parle de réduction de la dette. Mais on ne connaît pas que les services de la dette de la Grèce est extrêmement pété suite à toute une série d'arrangements. Donc, le problème n'est pas la dette, mais la dette est une question liée aux agendas, comme je disais, de l'FMI et aussi du gouvernement qui veut utiliser cette réduction pour ses propres objectifs politiciens. Ensuite, est-ce que les gens vont continuer à pouvoir payer les impôts? Il y a eu une grande réussite en 2016 présentée par le gouvernement, c'est-à-dire un excédent budgétaire primaire extrêmement élevé. Mais il faut gratter derrière pour se rendre compte de la signification de cet excédent primaire. Donc, il y a la façade, il y a la surface et la réalité derrière. Et justement, parce qu'on ne voit pas la réalité derrière, nous sommes constamment devant des surprises. On nous dit que ça va s'arranger. Au bout d'un an, on se rend compte que ça ne s'est pas arrangé. Là, on va nous dire à nouveau que ça s'est arrangé. On va voir un peu plus tard que les problèmes reviennent.
Merci Georges Prevelakis, professeur de géopolitique à la Sorbonne et spécialiste de la Grèce. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Toujours à Bruxelles, les derniers réglages aujourd'hui pour que s'ouvrent les négociations sur le Brexit. Les États membres viennent tout juste de confirmer officiellement Michel Barnier en tant que négociateur en chef avec Londres. Les Européens seront donc prêts à travailler et devront encore attendre l'issue des élections législatives anticipées de début juin au Royaume-Uni. La réunion de l'Eurogroupe cet après-midi dont on a parlé sera la première pour Bruno Le Maire, tout juste nommé, vous le savez, à Bercy. Ce matin, le nouveau ministre de l'économie était à Berlin pour y rencontrer son homologue Wolfgang Schäuble. Cyril Sauvageau était là.
Deutschland und Frankreich. Wir haben viel zu tun.
Quelques mots en allemand de Bruno Le Maire, des mots d'encouragement de la part de Wolfgang Schäuble. À Berlin ce matin, les deux ministres des Finances ont tenu, dès leur premier rendez-vous, à montrer leur détermination commune avec la création d'un groupe de travail sur l'avenir de la zone euro.
Ça fait des années que l'on parle de progrès dans l'intégration de la zone euro, mais les choses n'avancent pas assez vite et pas assez loin. Eh bien, nous sommes décidés désormais à faire avancer les choses plus vite, plus loin, de manière très concrète.
Concrètement, des propositions devront être faites au prochain Conseil des ministres franco-allemands début juillet. Parmi les chantiers prioritaires, la convergence fiscale, l'investissement, la coordination des politiques économiques, mais aussi l'avenir institutionnel de la zone euro. Un programme ambitieux, mais pour convaincre l'Allemagne d'avancer, la France devra donner des gages de bonne volonté. C'est aussi le message qu'est venu délivrer Bruno Le Maire.
Nous tiendrons nos engagements en matière de réduction des déficits. Et nous ne le faisons pas pour faire plaisir à l'Europe, à la Commission européenne et même à nos amis allemands. Nous le faisons parce que c'est bon pour la France.
Réponse plutôt bienveillante de Wolfgang Schäuble.
Deutschland vertraut Frankreich.
L'Allemagne fait confiance à la France. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Et autre rencontre bilatérale France-Allemagne dans les minutes qui viennent, celle des deux chefs de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian et Sigmar Gabriel.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
La campagne des législatives a officiellement débuté, nous y reviendrons. Et pendant les 20 jours qui viennent, elle sera émaillée probablement par les actions des salariés qui, ça et là, risquent de perdre leur emploi. Les syndicats savent évidemment que dans cette période, le tout nouveau gouvernement sera soucieux d'éviter tout embrasement social. Hier, sous la pression du ministère de l'économie qu'on vient d'entendre, Bruno Le Maire, PSA et Renault se sont engagés à augmenter leurs commandes auprès de l'équipementier GMNS. Cela pourrait permettre à l'entreprise qui emploie 279 salariés de poursuivre son activité, au moins pour un temps, même si cela constitue pour la CGT un tout petit pas. Autre conflit social latent, celui qui concerne le groupe Eram, la maison mère de Tati, dont les quelques 140 magasins risquent la fermeture. Là, ce sont près de 1800 salariés qui sont plus qu'inquiets. Les repreneurs ont jusqu'à ce mercredi pour déposer leur offre. Elles seront examinées le lundi suivant par le tribunal de commerce de Bobigny. En attendant, les salariés de la célèbre marque associée au boulevard Barbès avaient tenu à se faire entendre ce matin sous les fenêtres de la toute neuve ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui les a reçus. Ce qu'ils veulent avant tout, ce sont de bonnes conditions de départ. À leur côté, il y avait Mounir Bourafa, l'avocat des salariés de Tati.
On a été reçu ce matin à 10h par le ministère du Travail. En préambule de cette réunion, Madame le ministre du Travail a fait une allocution pour nous indiquer la démarche qui serait engagée par le gouvernement, à savoir, premièrement, garantir la mise en place d'une antenne emploi avec une cellule de reclassement et des budgets conséquents qui viendraient compléter les mesures actuellement proposées au titre du plan social. Deuxième engagement qui est celui d'aller prendre attache avec la direction du groupe Eram pour l'inciter à venir abonder et participer au financement des mesures d'accompagnement au titre du PSE. Et puis contacter également, enfin, troisième engagement, de contacter les repreneurs pour leur demander d'améliorer leur offre de reprise.
Voilà, Mounir Bourafa au micro de Delphine Simon. C'est avec l'objectif à terme de dynamiser le marché du travail que le nouveau pouvoir veut réformer le code du même nom. C'est d'abord Emmanuel Macron qui pour cela s'adressera en personne demain aux syndicats et aux patronats avant de passer la main au gouvernement. Autre chantier que le nouveau pouvoir a promis d'ouvrir rapidement, la moralisation de la vie politique, c'est François Bayrou, garde des Sceaux, qui en sera le maître d'œuvre. Il recevra cet après-midi le député apparenté PS René Dos, qui a transmis au gouvernement 12 propositions concrètes pour plus de transparence. Donc, il sera suivi dans le bureau de François Bayrou par les représentants de deux associations anticorruption, Anticor et Transparency International. C'est parti pour 20 jours de campagne législative. L'enjeu est tout simplement de savoir si le président que les Français ont élu le 7 mai pourra ou non appliquer la politique qu'il a promise, mettre en œuvre les réformes qu'il juge indispensables. À sa gauche comme à sa droite, La République En Marche sera en quelque sorte seule contre tous. Certains ont l'intention de tempérer simplement son ardeur réformatrice. D'autres comptent bien bloquer toutes ses initiatives. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour Alain Passerelle.
Vous êtes le chef du service politique à France Inter. 577 circonscriptions à regardez de près, mais tout de même, vous suivrez bien entendu les points chauds, comme on les appelle, de cette campagne.
Oui, difficile d'être exhaustif, mais tout de même, regardons ces batailles fratricides au cœur de la capitale. Guerre des droites, deuxième circonscription de Paris, député sortant François Fillon, le parti LR investit Nathalie Kosciusko-Morizet, mais face à elle, deux dissidents, le maire LR du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq et Henri Guénaud. La République En Marche aura aussi son candidat. En revanche, pas de candidat macroniste dans la 18e circonscription, nous sommes au nord de Paris, beaucoup plus populaire. Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail socialiste, trouvera face à elle Caroline Dehas, militante écologiste et féministe très active, et un insoumis, Paul Vanier, conseiller éducation de Jean-Luc Mélenchon, voilà pour la guerre des gauches. D'autres anciens ministres de François Hollande se présentent, Mathias Fekel dans le Lot-et-Garonne, Stéphane Le Foll dans la Sarthe et Pascal Boitard dans la Somme avec face à elle François Ruffin pour les insoumis et Franck de la personne pour le Front National. On surveillera aussi les 6 ministres actuels candidats, Bruno Le Maire dans l'Eure, Richard Ferrand dans le Finistère, Mounir Majoubi à Paris, Christophe Castaner dans les Alpes de Haute-Provence et Annick Girardin à Saint-Pierre-et-Miquelon. Duel explosif dans le centre-ville de Marseille entre le sortant socialiste Patrick Mennucci et l'invité surprise Jean-Luc Mélenchon. D'autres anciens candidats à l'Élysée sont engagés dans ces législatives, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Benoît Hamon dans les Yvelines, Nicolas Dupont-Aignan dans l'Essonne, avec face à lui un candidat FN. Nathalie Arthaud et François Asselineau en Seine-Saint-Denis. Jean Lassalle, dans les Pyrénées-Atlantiques, a signalé Florian Philippot pour l'EFN à Forbach. Il aura face à lui 16 candidats et le socialiste François Lamy à Lille, 24 concurrents.
Merci Frédéric et bon courage au service politique.
Merci.
Les deux grands partis traditionnels, ça ne vous a pas échappé, ont été les deux grands perdants de la présidentielle. Ils espèrent se refaire une santé, mais c'est peu probable. Ils n'y croient eux-mêmes qu'à moitié dans cette élection, dans ces élections. Ils savent déjà que beaucoup de choses sont à reconstruire. Ça, c'est entendu ce matin des deux côtés. Le premier secrétaire du PS était, par exemple, l'invité de Patrick Cohen.
Le 18 juin, on prendra les décisions tous ensemble. Je pense que le Parti Socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, qu'il y aura beaucoup de travail et que je serai au milieu de ce travail. Le problème, ce n'est pas le congrès. Le congrès aura lieu. Le problème, c'est quand. Est-ce qu'on va tout de suite faire un congrès maintenant? Je pense qu'il faut réfléchir un peu plus longuement. Tous les courants progressistes aujourd'hui sont partagés dans la difficulté face à la montée du nationalisme. Il faut analyser ça en profondeur, voir les problèmes français, ce qui s'est passé pendant ce quinquennat, mais en même temps comprendre qu'il y a peut-être une reformulation du progressisme à inventer.
Et Christophe Cambadélis n'exclut pas un changement de nom. Dans la même envie de tout remettre à plat, celui qui fut à la tête de l'UMP à un moment, Jean-François Copé, il était lui l'invité de France 2 ce matin.
Je pense que le parti LR, il a besoin d'être vu de fond en comble, du sol au plafond, il faut tout recommencer.
Pour faire quoi ?
Et de toute façon, au lendemain du 18 juin, quoi qu'il arrive, il faudra tout réorganiser. Et pour faire quoi ? Pour faire que les voix différentes soient mieux entendues, pour faire qu'il n'y ait pas une seule ligne avec le doigt sur la couture du pantalon, pour ne pas que celui qui est chef, s'il doit y en avoir un, vire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
Une direction
nous
collégiale, c'est ça que vous avez proposé.
Nous avons tellement souffert de ça avec François Fillon et avec Nicolas Sarkozy. Il faut changer, il faut ouvrir, il faut qu'il y ait des sensibilités, il faut qu'il y ait des tendances différentes, comme j'avais d'ailleurs voulu le faire et mis en œuvre quand j'étais à la tête de ce parti.
La morale publique dont va se préoccuper le gouvernement, nous en parlions il y a quelques instants, lui, la semble-t-il, défié en juillet 2013. Lui, c'est Boris Boillon, diplomate à l'époque, ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy, qui n'en disait que du bien. Il avait été interpellé sur un quai de la gare du Nord en possession d'une très grosse somme d'argent liquide, 400 000 euros environ. Boris Boillon est jugé depuis ce matin à Paris pour défaut de déclaration, faux usage de faux, blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Il assure que cet argent provenait d'activités de sa société de conseil. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Alain.
Vous suivez ce procès. L'homme a commencé à s'expliquer.
Oui, l'ancien ambassadeur de France en Irak puis en Tunisie se défend pied à pied. Boris Boillon, costume noir cintré, cheveux châtains, coupé court, dégage une certaine assurance. Je suis diplomate de carrière, diplômé de Sciences Po Paris, langue zo, de l'Institut d'études arabes de Damas et de celui du Caire. Parfaitement arabophone, il est recruté comme conseiller de Nicolas Sarkozy, participe à la libération des infirmières bulgares retenues en Libye, avant d'être nommé ambassadeur en 2009. Après l'élection de François Hollande, j'aurais pu, dit-il, rejoindre le placard doré qu'on me destinait. Mais mon ressort psychologique, c'est l'action, comme dit Bergson, agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Boris Boillon fonde donc sa société Spartago pour aider les entreprises à travailler en Irak. C'était ma valeur ajoutée, dit-il, aller dans un pays dangereux et mériter le salaire de la peur, si je peux dire. Boris Boillon aime bien parler par aphorisme, mais vous n'aviez aucune compétence technique, souligne le président, et je le revendique, le coupe Boris Boillon. Je suis diplomate. Concrètement, je prenais mon baluchon, j'allais à Istanbul, en Roumanie, en Belgique, à Paris, et je cherchais des boîtes. Cette activité de conseil explique-t-elle l'origine des 350 000 euros et 40 000 dollars en liquide qu'il transportait avec lui Gare du Nord ce jour de juillet 2013. Boris Boillon à la journée pour tenter d'en convaincre le tribunal.
Merci Corinne Audouin. 30 ans de réclusion criminelle requis ce matin devant la cour d'assises de Savoie à l'encontre de cette aide-soignante accusée de 13 empoisonnements de personnes âgées dont 10 mortelles. C'était en 2012 et 2013 dans une maison de retraite près de Chambéry. Ludivine Chambé, 34 ans, est une tueuse qui agit avec détermination, mais pour des motifs obscurs, a estimé l'avocat général. Michel Field n'est plus le directeur de la rédaction de France 2. Il a présenté ce matin sa démission à Delphine Ernot, la PDG de France Télévisions, finalement l'a accepté. Et il faut dire que la rédaction devait se prononcer demain sur une motion de défiance à son encontre, qu'il a donc précédée. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour Alain.
Tout ceci, c'est l'aboutissement d'une histoire assez mouvementée.
Oui, dès sa nomination en 2015, les relations ont été très tendues entre la rédaction et Michel Field. En avril 2016, déjà, il avait été visé par une première motion de défiance. Au cœur des reproches, sa méthode de communication que les salariés jugent brutale et une certaine indifférence, voire même un certain mépris pour la vie quotidienne de la rédaction. Mais la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la tribune du directeur de l'information dans Libération le 16 mai dernier. Michel Field y formulait certaines critiques sur le travail des équipes et le traitement de l'information à France Télévisions. Tribune suivie de l'annonce de l'éviction du 20h de David Pujadas. Au moment même où était formé un nouveau gouvernement, le timing avait été pointé du doigt. La démission de Michel Field a donc été d'abord présentée ce matin au comité de direction. Il l'a ensuite confirmée à l'ensemble de ses équipes. De son côté, le SNJ, le syndicat national des journalistes, estime que le départ de Michel Field ne doit pas faire l'économie d'un débat sur l'information dans le service public. L'AG, qui se tient donc cet après-midi à 14h30, devra décider du maintien ou non de l'autre motion de défiance qui vise Delphine Ernot elle-même, la présidente des chaînes. En attendant, Michel Field assurera les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur.
Merci Jacqueline Pétrose. Parlons football maintenant. Qui aurait parié sur une telle réussite de Zinedine Zidane il y a à peine 2 ans, lorsque le champion du monde a pris les commandes du Real Madrid? Une Ligue des Champions et pour sa première saison complète, un titre de champion d'Espagne conquis hier soir. Même Ronaldo, jusqu'ici très distant face au mérite de ses entraîneurs successifs, lui tresse des louanges. Jour le plus heureux de ma carrière professionnelle, a dit hier soir le Zizou National, relayant donc probablement en deuxième position le titre de 98. Bref, Zidane, super entraîneur. Écoutez ce qu'en dit Philippe Montagnier, entraîneur lui français depuis une bonne dizaine d'années. Il a notamment entraîné Rennes, mais aussi un club espagnol, la Real Sociedad.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples dans le passé de réussite aussi fulgurante et aussi éclatante. Donc c'est assez stupéfiant, une réussite aussi rapide. Et puis gérer aussi un effectif, on sait très bien que le vestiaire du Real Madrid est réputé pour être extrêmement capricieux et plus d'un entraîneur s'est cassé les dents. Donc arriver à gérer cet effectif avec une telle harmonie puis avec des résultats aussi probants, c'est une très grosse performance. Mais je suis pas surpris pour l'avoir rencontré lorsqu'il passait ses diplômes et qu'il était passé une semaine à Rennes. On voit que c'est quelqu'un qui s'est longtemps très très bien préparé. Je pense que ça suffit pas le passé de joueur. Ça donne de la crédibilité au début, mais il me semble, outre l'aspect technico-tactique qu'il maîtrise bien avec son staff, on sent que c'est le management et surtout la gestion de stars où on a l'impression que tout le monde s'entend et tout le monde a envie de donner le meilleur de soi-même, même ceux qui jouent moins. Donc c'est dans son management qu'il a l'air de faire la différence, parce que c'est jamais évident de diriger de tels joueurs.
Philippe Montagnier, joint par Jacques Vendroux. Carton plein pour les Françaises dans les vagues de Biarritz. Ce matin, Pauline Adot a été sacrée championne du monde de surf, juste devant sa compatriote Joanne Defay. Le Festival de Cannes, 3 films en compétition aujourd'hui pour la Palme d'Or. L'Autrichien Michel Haneke avec Happy End, qui raconte l'histoire d'une famille bourgeoise de Calais qui vit à côté des migrants. Le jour d'après, du Sud-Coréen Hong Sang-soo. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du 3e film, donc la mise à mort du cerf sacré du grec Yorgos Lanthimos.
Alors, il faut d'abord que je vous dise 2 mots de Yorgos Lanthimos. Il a 43 ans. Les films qu'on connaît de lui sont très, très particuliers. Il y en avait un qui s'appelait Canine. C'était un couple qui faisait vivre sa famille dans une bulle. Elle est éloignée du monde. The Lobster, qui était à Cannes il y a 2 ans, c'était une fable sur une société qui prescrivait le célibat. Donc, si vous restiez, vous trouviez pas l'amour, ben vous risquez d'être transformé en animaux. C'est pour vous donner une idée de son univers. C'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction, c'est notre réel, mais à côté du réel. Notre réel perverti. Là, nous sommes vraiment dans notre monde, un couple de médecins dans une ville américaine. Et d'ailleurs, le premier plan, lui, est cardiologue, chirurgien cardiaque. Premier plan, c'est un cœur qui bat dans une opération à cœur ouvert. Vous avez déjà une entrée en matière. Et nous allons voir ce médecin se lier avec un adolescent. Qui est cet adolescent qui vient se voir au bureau? Il est gentil avec lui. Et en même temps, on a l'impression qu'il se sent coupable vis-à-vis de lui, que l'adolescent a barre sur lui. et nous allons arriver, je ne vais pas déflorer, à une sorte de thriller, à une sorte de tragédie grecque, à un dilemme impossible où il faut sacrifier une personne pour faire vivre le groupe. Nicole Kidman, qui joue l'épouse, est à la fois formidable et monstrueuse. Si vous voulez, il y a un côté à la fois tragédie grecque, je l'ai dit, un petit côté année que période il y a 20 ans, mais avec un côté fou, avec un côté drôle par moments, un côté délirant. Voilà, c'est un film qui décoiffe et c'est un cinéaste qui compte.
Et un film d'assemblage, comme le champagne. Merci Eva Bétan et à demain pour Cannes, de nouveau. La mise à mort du cerf sacré du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Bonne journée.